France Culture. Histoire. Astrid de Villaine.
Si nous sommes capables de penser les inégalités qui ont traversé les siècles et qui modèlent notre temps, qu'en est-il de l'égalité? Cette notion que l'on croit comprendre est plus insaisissable qu'il n'y paraît, ses contours n'ayant cessé de se transformer au cours de l'histoire. Quelles formes et quelles fonctions ont pu prendre l'égalité? Et aujourd'hui, alors que ne cessent d'augmenter les inégalités partout dans le monde, comment la réimaginer et surtout, est-elle atteignable? Bonsoir Darine McMahon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes professeur d'histoire européenne à Dartmouth College aux États-Unis et nous vous recevons pour cet ouvrage « Égalité, histoire d'une idée insaisissable » qui nous a inspiré pour le titre de cette émission qui a été traduit en français par Christophe Jacquet et qui vient de sortir le 22 octobre dernier chez Flammarion. Darine McMahon, je crois que je vais faire comme votre entourage ou comme vos lecteurs, vous le précisez des lignes qui pitent du livre, parler des inégalités, parce que finalement, quand vous avez commencé à écrire sur l'égalité, vous le dites dès les premières pages, on ne vous a parlé que d'inégalité.
Oui, exactement. Et c'est une blague que je fais assez souvent. Tout le monde m'a envoyé des textes. Ah voilà, j'ai quelque chose pour votre projet sur l'inégalité. Non, 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 c'est l'égalité. Bien sûr, ils sont très liés, mais sont pas la même chose.
Pourquoi on les confond? Pourquoi c'est plus facile de parler des inégalités que de l'égalité?
En fait, je crois que quand nous voyons le monde, nous voyons d'abord les inégalités. Ils sont très évidents, les différences, etc. Mais pour égaliser quelque chose, pour faire des comparaisons, il faut l'imaginer avant. Donc c'est plus complexe, c'est pas là, ça commence dans notre tête et puis nous partageons ces idées-là, nous créons une image sociale et ça devient réel.
Alors, on va parler bien sûr de l'histoire de l'égalité, puisque c'est le livre que vous venez de publier, Darine McMahon. Mais c'est peut-être déjà de l'histoire. Vous parlez quand même un peu d'actualité dans ce livre et un peu du paradigme de l'inégalité avec l'année 2016. Pourquoi elle est importante cette année 2016, Darine McMahon?
Oui, en fait, avec Brexit et la première élection de Donald Trump, je me suis rendu compte que j'avais toute ma vie vécu avec une certaine notion de l'égalité, une certaine notion de l'avenir de l'égalité. C'était Martin Luther King qui a bien dit que l'arc moral de l'univers tend vers l'égalité, tend vers la justice. Et je crois que moi, j'avais grandi avec cette idée en Californie. Je suis né dans les années 60 et il y avait des mouvements pour les droits civiques. Il y avait aussi, pendant la plupart du XXe siècle, la réduction de inégalités au niveau de richesse et de revenus. Et donc, on croyait que le monde devenait peu à peu, avec difficulté, plus égal. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que ça, c'était une espèce de mythe. Et donc, je me posais des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité? C'est un bon moment, un moment de crise, de l'examiner et d'examiner une idée que nous pensions que nous avoir su. Oui.
Et donc, vous parlez de ces plutocrates populistes. C'est vrai que c'est pas une notion qu'on a souvent, le mot plutocratie, en France, pour décrire, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Et vous dites qu'ils utilisent, en fait, l'égalité ou l'inégalité contre d'autres personnes que ceux qui se battaient pour ces droits-là. Par exemple, les migrants.
Tout à fait. Et bon, ça c'est quelque chose que dont on se rend compte tout de suite en étudiant l'égalité, que en fait c'est une manière de diviser les gens peut être pas simplement pour les rassembler, mais aussi pour les diviser. Et c'est ça que font les plutocrates maintenant. Ils font des appels à certaines personnes qui étaient à l'écart, qui étaient exclus de la société.
Comme s'ils en détournaient le principe.
Exactement. Et en disant, nous sommes les vrais égaux. Et en fait, on va faire quelque chose ensemble, mais en niant les inégaux, les qui font un faux appel à l'égalité.
La plutocratie, pour résumer, c'est les puissances d'argent qui se mêlent de politique.
Exactement.
Equality in one form or another has a huge appeal in nearly every society known to us.
L'égalité sous une forme ou une autre exerce un attrait considérable dans presque toutes les sociétés que nous connaissons. C'est en réalité une valeur qui communique une impression de chaleur et de convivialité avant même que ses implications ne soient pleinement comprises. La poésie joyeuse des gondoliers réclamant l'égalité dans l'opéra de Gilbert et Sullivan rayonne aisément pour tous. Aussi, permettez-moi d'en citer un extrait. Tous seront égaux, le comte, le marquis et le duc, le palefrenier, le majordome et le cuisinier, l'aristocrate qui tient une banque de cotation, l'aristocrate qui cire les bottes.
Vous avez peut-être reconnu Amartya Sen, économiste et philosophe indien, prix Nobel d'économie, ici doublé par Bruno Barada, qui parle d'égalité avec cette magnifique extrait des chœurs de l'acte premier de l'opéra Les Gondoliers d'Arthur Sullivan en 1889. Et vous en parlez longuement, Darin McMahon, dans ce livre de Amartya Sen, puisque pour vous, il faut faire très attention avec cette notion d'égalité. Peut-être d'ailleurs, comme on le dit parfois avec la laïcité à la française, à ne pas accoler trop d'adjectifs derrière. L'égalité, c'est l'égalité. C'est d'ailleurs pour ça que vous appelez votre livre « Égalité ».
Oui. Quel plaisir d'entendre la voix d'Amartya Sen. J'avais le plaisir de dîner avec lui à Harvard il y a quelques années. Et bon, il pose la question, égalité, ok, égalité de qui et de quoi? Et c'était une question que Aristote a posée au début de l'histoire, disons. Et c'est très important parce qu'il y a toujours une référence. Ouais. On peut parler de l'égalité universelle, mais c'est jamais universel.
Je vous cite dans ce livre tout début. Lorsqu'est évoquée l'égalité, elle est en général associée à quelque chose. Ce peut être l'égalité des richesses et des revenus, des chances et des résultats, des fins et des moyens. L'égalité civique, l'égalité sociale, l'égalité juridique, l'égalité des droits, l'égalité d'accès à l'éducation. En fait, ça ne s'arrête jamais, ça recouvre tout.
Oui. Et ça m'a posé des problèmes.
Pourquoi ?
Mais en fait, j'ai fait le choix de ne pas mettre l'emphase seulement sur, disons, l'égalité économique ou l'égalité des genres. Et de temps en temps, comme hier soir à la Sorbonne, une amie de moi, une philosophe très importante, c'est l'inspecteur, a posé les mots. Mais il faut spécifier ici, entre les deux, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en répondant, j'ai dit que, en fait, c'est les acteurs dans l'histoire souvent utilisent le mot égalité dans un sens très général. Et le sens différent de égalité saigne d'une région à l'autre, si vous me comprenez.
Oui. Et Darin McMahon, dans ce livre, puisque c'est une histoire d'une idée insaisissable, comme vous l'appelez, l'égalité, on pourrait nous penser, surtout en tant que Français, à la Révolution française.
Absolument.
C'est un peu l'image qui nous vient. D'ailleurs, vous utilisez beaucoup de concepts de la devise de ce pays, hein, fraternité, et vous dites, j'aime beaucoup l'expression, l'égalité et sa compagne la liberté.
Oui. Absolument. Oui, c'est vrai que l'égalité est pour la France et aussi c'était pour les États-Unis une des idées les plus importantes. Et les Français passionnés pour l'égalité, peut-être toujours passionnent. Et en fait, il y a une tension entre liberté et l'égalité, toujours et surtout après la Révolution française, parce que pendant la Révolution, la période le plus fort de l'égalité était le terreur. Et donc, en fait, j'aime faire la référence aux Jacobins qui s'appelait le guillotine, la faux d'égalité. C'est une manière de niveler, littéralement, de couper les têtes. Donc après la Révolution,
la faux de l'égalité.
Oui, exactement.
La FAUX.
Oui, la hache de la loi, ouais. Aussi. Et j'allais dire que après ce point-là, il y avait beaucoup de personnes qui ont dit que, ah oui, de poursuivre l'égalité implique des réductions de liberté. Et c'est le grand récit d'Alexis de Tocqueville, par exemple. Il y a une tension inhérente entre les deux. Avant, c'était pas ça. En fait, avant, si vous lisez Jean-Jacques Rousseau, par exemple, il aurait dit que on peut pas avoir l'égalité sans liberté et vice versa. Les deux vont ensemble.
I don't in any way encourage black people to go out and initiate acts of aggression indiscriminately against whites.
Je n'encourage en aucun cas les noirs à commettre des actes d'agression indiscriminés contre les blancs, mais je crois fermement que l'homme noir aux États-Unis et tout être humain où que ce soit a pleinement le droit de faire tout ce qui est nécessaire par tous les moyens nécessaires pour protéger sa vie et ses biens, en particulier dans un pays où le gouvernement fédéral lui-même a prouvé qu'il était soit incapable, soit peu disposé à protéger la vie et les biens de ses êtres humains.
On vient d'entendre Malcolm X en 1965 à propos de la violence dans la quête de l'égalité. Je fais le lien avec la Révolution française, vous ne le faites pas vous, mais vous parlez très longuement des mouvements contre le racisme aux États-Unis, pour l'égalité, contre... Et j'aimerais beaucoup que vous nous disiez votre avis là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors même qu'on a cet héritage sur la Révolution française, on ne supporte pas à dire que la violence est légitime pour obtenir des droits. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il dit dans cet entretien à CBC, mais c'est vrai que c'est toujours la question qu'on pose sur cette question, notamment dans ces luttes-là.
Oui, en fait, et moi je dirais que en fait, Frantz Fanon a dit à peu près la même chose, et Malcolm X l'a lu, bien sûr. C'est complexe, mais il y a des moments quand l'égalité ne cède pas. En fait, les gens ne cèdent pas à volontiers. Il faut le prendre. Et il y a des moments quand ça a besoin de violence, disons.
Alors, quand vous vous plongez dans cette grande histoire de l'égalité, là, on est allé un peu loin avec Malcolm X, mais on va revenir au début. Vous allez jusqu'aux hommes préhistoriques.
Oui, je commence là parce que en fait c'est très intéressant que les anthropologues qui étudient les petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont remarqué qu'ils habitent avec une certaine égalité. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup, donc il y a un pauvreté, mais en même temps ils ont des règles pour contrôler l'émergence de dominance, pour contrôler les alphas qui peuvent dominer les autres. Et donc, c'est très intéressant. Je dirais qu'en fait, on pourrait dire que les êtres humains ont vécu à peu près 97% de leur temps sur la Terre en égalité relative. Et c'est très intéressant.
Les chasseurs-cueilleurs qui déjà avaient cette idée d'égalité dans leur groupe.
Pas forcément l'idée, mais en fait, ils ont fait l'effort de vivre ainsi. Et c'est très important, je crois.
Ne pas être dominé, en tout cas.
Exactement.
De toute façon, quand on parle d'égalité d'Arin McMahon, on est obligé, et vous le faites très longuement dans ce livre « Histoire d'une idée insaisissable », de parler aussi du mot « pouvoir », de parler aussi du mot « hiérarchie ».
Oui, tout à fait. Ils sont très liés dans nous-mêmes. Moi, je dis que nous sommes des animaux partagés, c'est-à-dire que d'un côté, nous sommes des animaux hiérarchiques. C'est tout clair, en fait. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est dans nous. Mais de l'autre côté, nous avons développé des moyens de résister la hiérarchie, de résister la dominance et de construire la société, la vie sociale. Donc ces deux tendances sont toujours dans nous et il faut les équilibré.
Allez, on va avancer un petit peu dans le temps, si vous le voulez bien, d'Arin McMahon, puisqu'elle est tellement longue, cette histoire de l'égalité. Vous, bien avant la Révolution française, il y a bien sûr la Grèce antique. Il y a bien sûr, on l'oublie ça parfois, les racines chrétiennes de l'égalité. Alors vous allez chercher cette citation que j'aimerais nous lire ce soir, celle du pape Grégoire Ier, dit le Grand, qui disait, bien avant la Déclaration des droits de l'homme, « Tous les hommes naissent égaux par nature ».
Absolument, c'était une banalité en fait au VIe siècle, quand Grégoire le Grand l'a dit. En fait, c'était une partie de le droit romain et c'était une idée reçue entre les stoïciens voilà. Alors quand Jefferson a dit à peu près la même chose au XVIIIe siècle, c'était pas une idée nouvelle, ce n'était pas une idée radicale comme Lincoln l'a dit plus tard, c'était à peu près une banalité. Jefferson a reconnu ça, et donc, mais quand même, c'est très intéressant. C'était dit que tous les hommes sont nés égaux, existe depuis longtemps.
Alors, autre cliché que vous cassez un petit peu dans ce livre d'Arin McMahon, Égalité, histoire d'une idée insaisissable, c'est celle de Marx. On peut se dire tout de suite, Marx et l'égalité, ça va de pair.
Ouais.
Eh bien, pas du tout.
Non, en fait, c'est très intéressant. Et c'est vrai que dans la tradition socialiste, social-démocrate, il y a, et surtout maintenant, un grand lien entre l'égalité et la politique. Mais Marx, en fait, il agit contre ce qu'ils appelaient les socialistes vulgaires, qui voulaient niveler tout. Et en fait, il a considéré l'égalité comme l'illusion de l'époque. Il utilise exactement cette phrase dans un de ses livres des années 40. Et donc, pour lui, le but de son projet était de terminer la lutte de classe, mais pas de faire entrer l'égalité sociale. En fait, il dit dans sa critique du programme de Gotha, c'était le programme des démocrates sociaux en Allemagne à la fin du 19e, qui voulait terminer toute inégalité politique et sociale. C'est une partie du programme, il dit. Et c'est ridicule, ça. Ça arrive jamais. Donc, le programme est de terminer la lutte des classes, qui va avoir des effets égalisant, si vous voulez, mais c'est le point n'est pas de arriver à l'égalité.
Vous voulez dire que l'égalité, ce n'est pas l'uniformisation?
Il y a ça, bien sûr, mais aussi, en fait, il n'y a aucune référence chez Marx que l'avenir communiste va être un lieu de égalité économique, disons, même politique. Le fameuse phrase qu'il utilise, qu'il a prêtée de Louis Blanc, chacun selon sa capacité, chacun selon ses besoins, ça veut dire que les besoins de chacun sont différents et les capacités aussi. Donc les gens sont égaux et ils n'auront pas la même chose à la fin.
Vous écrivez sur ce sujet, l'importance donnée par Marx au développement de soi ne fait pas mention de l'égalité. En réalité, elle présuppose même l'inégalité.
Oui, oui, oui.
Et que ça s'inspirait aussi de Saint-Simon.
Oui.
Il y a beaucoup de références dans ce livre.
Oui, en fait, j'ai pas mal lu.
On voit. Alors, on va justement écouter une lecture, si vous le voulez bien, ensemble.
Super.
Dès le moment de l'apparition de la première machine, il fut évident pour tous les gens qui réfléchissaient que la nécessité du travail de l'homme, et en conséquence, dans une grande mesure, de l'intelligence humaine, avait disparu. Si les machines étaient délibérément employées dans ce but, la faim, le surmenage, la malpropreté, l'ignorance et la maladie pourraient être éliminés après quelques générations. Mais il était aussi évident qu'un accroissement général de la richesse menaçait d'amener la destruction. Était vraiment, en un sens, la destruction d'une société hiérarchisée. Dans un monde dans lequel le nombre d'heures de travail serait court, où chacun aurait suffisamment de nourriture, vivrait dans une maison munie d'une salle de bain et d'un réfrigérateur, posséderait une automobile ou même un aéroplane, la plus évidente et peut-être la plus importante forme d'inégalité aurait déjà disparu. Devenue générale, la richesse ne conférerait plus aucune distinction. Il était possible, sans aucun doute, d'imaginer une société dans laquelle la richesse, dans le sens de possession personnelle et de luxe, serait également distribuée, tandis que le savoir resterait entre les mains d'une petite caste privilégiée. Mais, dans la pratique, une telle société ne pourrait demeurer longtemps stable. Une société hiérarchisée n'était possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Le problème était de faire tourner les roues de l'industrie sans accroître la richesse réelle du monde.
Est-ce que vous savez, Darren McMahon, d'où on a trouvé cette, d'où on a tiré
non,
cette
et c'est pas
longue
dans mon
lecture.
Livre.
Non, c'est 1984 de George Orwell.
Ah oui.
Lu ici par Georges Claes dans Les Chemins de la philosophie sur France Culture en 2015, 1984, publié bien sûr en 1949. Qu'est-ce que vous trouvez des échos avec votre analyse sur l'égalité?
Oui, en fait, j'insiste sur le fait que nous sommes des animaux hiérarchiques, comme j'ai dit, et tous les endroits où les êtres humains se réunissent partout ils se forment des hiérarchies, donc c'est inévitable. La différence, il y a des hiérarchies acceptées, oui, légitimes, et la dominance qui force l'issue. Et ça, c'est il faut. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où il y a des hiérarchies acceptées, oui, et légitimes, mais pas de dominance.
J'ai une question sur ce titre, Histoire d'une idée insaisissable. En anglais, c'est The History of an Elusive Idea. Mm-hmm. Pardon pour l'accent.
Non,
c'est... Illusive, moi je l'aurais presque traduit, je suis pas la traductrice comme l'excellent Christophe Jacquet, mais par inatteignable. Enfin, en tout cas, à la fin de ce livre, on se dit, en fait, l'égalité, c'est surtout l'histoire d'une idée inatteignable.
Oui, en fait, c'est plus fort
c'est
la
résumé,
référence
peut-être.
En français qu'en anglais. Et elusive, ça veut dire qu'il nous échappe. Oui. Et donc... C'est à peu près, j'ai écrit un livre sur le bonheur et la poursuite de bonheur vous poursuivre, comme vous dites en français, c'est mieux la chasse au bonheur. Okay? Bon, vous chassez le bonheur et quand vous le trouvez, il faut le tuer. Et je crois qu'il y a quelque chose de similaire là-dedans, que nous chassons l'égalité, nous poursuivons l'égalité, mais nous n'arrivons jamais, en fait, à la limite.
Et pourtant, ouais. Vous citez aussi les travaux de Thomas Piketty dans ce livre. On a quand même beaucoup progressé sur le temps long.
Oui.
C'est juste qu'en fait, peut-être que dans Insaisissable ou dans Elusive, il y a aussi le fait que plus on a d'égalité, plus on en veut.
Oui, en fait.
Ou qu'on en cherche.
Et c'est très important de rappeler ça, qu'on a fait des progrès. Je crois que maintenant, on est très pessimiste, moi aussi, et c'est facile d'oublier les étapes positives que nous avons faites. Quand même, moi, je dirais que peut-être Piketty est un peu trop optimiste en visant l'histoire, mais l'optimisme est une vertu.
J'aime beaucoup, à la fin du livre, dans les mouvements plutôt récents, vous parlez notamment des mouvements féministes, il y a beaucoup de photos. Avec oui. Le poing levé, il y a Gloria Steinem et Dorothy Pittman Hughes, les féministes américaines. Il y a aussi le MLF oui. Français. Qu'est-ce qu'il nous dit ce point? C'est toute cette iconographie que vous nous proposez à la fin de votre livre, Darren McMahon, par rapport à ce sujet de l'égalité.
Oui, en fait, ça nous rappelle que, comme vous avez dit avant, que l'égalité est toujours un jeu avec le pouvoir. Et pendant les années 60, c'est devenu un symbole très important pour le Black Power, pour les féministes, pour beaucoup de gens. Mais il y a de la menace là-dedans. Et donc, il faut rappeler toujours que le poursuite d'égalité peut menacer des autres. Et
il y a voilà. Une tension ouais. Entre l'égalité et le pouvoir en
toujours,
place.
Toujours.
Peut-être les derniers mots pour terminer, comme ça on suit à peu près la chronologie
déjà,
du livre. Et oui, c'est déjà l'heure. Moi aussi, j'aurais pu en parler des heures, c'est très long ce livre. Mais les derniers mots. Nous ferions bien dès maintenant, avant que le palimpseste de l'égalité ne soit complètement effacé et que ces vieux hiéroglyphes ne soient devenus indéchiffrables, de les exhumer et de commencer à leur donner un nouveau visage.
Oui. Bon, c'est pour ça que j'écris le livre. Je crois qu'on a oublié comment imaginer l'égalité. Nous vivons maintenant dans une période très sombre vis-à-vis de l'égalité de sociaux et économiques. Et c'est difficile même à penser de l'égalité. Donc, je voulais étudier les images et l'imaginaire du passé pour le mettre en face pour pouvoir imaginer l'égalité pour l'avenir.
Vous avez écrit ce livre pour sa conclusion.
Ouais.
Et à quoi, j'imagine quand même que vous pensez au prochain, Darren McMahon, donc à quoi il pourrait ressembler ce nouveau visage de l'égalité aujourd'hui en 2025.
Aucune idée, c'est à la jeunesse de le former. Et bon, j'attends dans mon vieillesse.
Vous arrêtez.
Ils en font.
Merci en tout cas d'être passé par France Culture pendant ce séjour en France. Je sais que vous allez retourner aux États-Unis pour enseigner. Darin McMahon, professeur d'histoire européenne à Dartmouth College aux États-Unis. Vous avez cité un de vos précédents ouvrages, mais je pourrais citer aussi Fureur divine, une histoire du génie. C'était en 2013. Et ce livre, pour lequel nous vous avons reçu dans Question du soir, Égalité, histoire d'une idée insaisissable, qui vient de sortir chez Flammarion. Merci infiniment d'être venu. Et merci à toute l'équipe de Question du soir qui m'a aidé à préparer cet entretien. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Audrey Carme, Rodi Eken. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Léa Racine. Vous pouvez bien sûr réécouter, retrouver cet entretien et tous les autres sur le site de France Culture et l'application Radio France.